RCF.
Tu as couvert ma honte, c'est le titre du livre d'Anne Lécu qui sort aux éditions du Cerf. Nous sommes avec vous, Anne Lécu, pour parler justement de la miséricorde de Dieu qui nous couvre. Alors nous avons commencé à parler en évoquant la Genèse. J'aimerais qu'on revienne sur Dieu qui couvre de peau Adam et Ève, parce que vous dites qu'il les couvre de pudeur. Voilà, on a beaucoup parlé de la honte dans notre précédent entretien et vous dites qu'il y a une sorte de souci de Dieu d'apporter de la pudeur.
Oui, il me semble que couvrir Adam et Ève alors qu'ils se découvrent dénudés, qu'ils se cachent et qu'ils ont honte, c'est aussi leur permettre de vivre cachés, de les vêtir, donc de leur permettre la pudeur, effectivement. Et peut-être que la pudeur leur permet de vivre. Alors, il y a plusieurs interprétations sur cette tunique de peau. Les uns disent, avec notamment, je crois, Philon d'Alexandrie, c'est Delphine Orvillers dans un très joli texte.
Qui est rabbin, donc.
Qui est rabbin et qui commente ces passages, qui dit, selon certaines interprétations, c'est de notre peau, notre peau de chair et d'os, celle qui nous enveloppe, que Dieu nous recouvre. Alors, c'est très intéressant, cette idée-là. Ça voudrait dire qu'en fait, c'est l'accomplissement de la création et c'est pas du tout une malédiction que d'être recouvert de peau. C'est pas la ligne que j'ai suivie parce que ça m'arrangeait, si vous voulez, de suivre une autre piste, mais je trouve que cette piste-là est très intéressante. L'autre piste, c'est de dire, il a donc fallu sacrifier un animal pour habiller Adam et Ève. Et de quel animal s'agit-il? Alors, les rabbins ont de multiples explications, et je trouve que l'une d'entre elles est très jolie, c'est de dire c'est un agneau. Autrement dit, c'est déjà l'agneau qui sert au sacrifice pour remplacer Isaac, c'est l'agneau du sacrifice pascal, c'est l'agneau de Dieu, voilà. Donc c'est déjà finalement du sang versé par un animal innocent qui nous permet de vivre sans honte. Et je trouve qu'il y a du christique dans cette histoire, en fait. Comme si, déjà, la mort du Christ nous sauvait de la honte, de la faute, du malheur.
Oui, ça fait écho aussi à la tunique du Christ, on aura l'occasion d'en parler.
Voilà, ça fait écho à la tunique du Christ.
Alors, vous balayez beaucoup d'épisodes hein, bibliques, on n'aura pas le temps de parler de tout, mais je voudrais qu'on s'arrête sur l'histoire de Noé. Noé qui, en sortant de l'arche, s'enivre, il boit et puis il s'endort nu dans sa tente. Alors, ses deux premiers fils couvrent ce père d'un manteau en tournant la tête, mais le plus jeune, Cham, à regarder la nudité. Pourquoi vous parlez de ce texte?
Alors ça, c'est un texte qui me paraît essentiel. Et j'étais très flattée parce qu'il paraît, enfin flattée, c'est beaucoup dire, mais le pape lui-même, au missionnaire de la miséricorde, a cité Noé, paraît-il. Mais mon petit doigt me l'a dit, donc c'est pas mal. Et en fait, c'est très intéressant parce que tout d'abord, le premier fils rentre dans la tente, constate la nudité de son père. Donc non seulement il ouvre les yeux sur la nudité de son père, et en plus il va la proclamer à l'extérieur en disant aux autres, voilà, papa est nu et bourré dans la tente, en gros. Et les deux fils aînés arrivent à ce moment-là, à reculons, nous dit le texte, et donc ne voient pas la nudité de leur père et prennent un manteau qu'ils mettent sur leur père à reculons pour le couvrir sans le voir et se taisent. Et Noé, à la suite de cela, va maudire son fils cadet parce qu'en hébreu, découvrir la nudité de quelqu'un, c'est ni plus ni moins le violer. Et le mot hébreu qui dit découvrir la nudité, c'est le mot qu'on retrouvera dans les litanies sur l'inceste.
Et vous citez le Lévitique. Aucun de vous ne s'approchera de sa proche parente pour en découvrir la nudité.
Voilà, découvrir la nudité, c'est l'inceste. Et il me semble que quand on reprend aussi dans les dictionnaires la signification de ce mot, ça veut dire aussi être en exil, être sans abri. Et il me semble que du coup, on a une sorte de ligne de force, enfin un fil rouge entre couvrir la nudité, qui est la racine KPR qui va donner Kippour, qui est le grand pardon. Et donc le pardon par excellence, ce serait couvrir la nudité. Et la faute par excellence, ce serait cet autre mot hébreu, découvrir la nudité, qui est finalement contraindre les gens à être sans abri. Et on voit bien qu'il y a un lien entre habiter et abriter. en fait.
Oui, c'est pour ça que nous disions que Dieu nous abrite par sa bénédiction, par exemple.
Par exemple.
Ou par, effectivement, la peau hein, qu'il va donner à Adam et Ève. Il y a un souci de Dieu de pas nous laisser comme ça nus.
Exactement. Et du coup, la leçon à tirer de cette histoire de Noé, je pense que c'est nous aussi, quand nous accusons l'autre, autrement dit, quand nous découvrons sa nudité devant des tiers, hein, peut-être nous sommes pas très bien. Enfin, peut-être nous sommes un peu en faute pour le coup.
Anne Lécu, dans votre livre, vous dites que Dieu ne découvre jamais ma nudité, mais il recouvre ma faute. Alors, on y revient, hein, différence entre la miséricorde peut-être et puis le pardon. Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Alors déjà, il faut pas réduire, je crois, la miséricorde au simple pardon. Mais ce qui est important, c'est de comprendre le sens du pardon dans la Bible. Donc la miséricorde, pour moi, elle commence dans la création par le fait que Dieu se donne. Et la miséricorde, pour faire très court, de miseria et cordia, c'est pas d'abord Dieu qui, du haut de sa superbe, se pencherait sur la misère de l'homme. C'est vraiment Dieu qui prend sur lui la misère de l'homme et qui se met à la hauteur de l'homme. Autrement dit, la miséricorde de Dieu, c'est que la misère est en Dieu. Et Dieu se vide de lui-même. Et c'est pour ça qu'il se donne et que son mouvement est de se donner. Et d'ailleurs, dès la Genèse, il marche dans le jardin à la hauteur de l'homme. Bon. Donc pour moi, la première des miséricordes, c'est ce mouvement de don. Et ce mouvement de don va jusqu'au pardon, qui, dans la première alliance, prend la forme du grand pardon de la fête de Kippour, laquelle signifie recouvrir. Et moi, quand j'ai découvert que la racine de Kippour signifiait recouvrir, j'étais enthousiasmée par ça, parce que ça va vraiment dans la même direction. C'est-à-dire que lors de la fête de Kippour, il y a une grande célébration qui s'appelle la Kapara, où les juifs pratiquants se mettent à l'abri, donc se laissent recouvrir par Dieu, et font une sorte de liste de tous les péchés possibles que toute l'humanité un jour peut avoir fait, même si eux n'ont absolument pas fait ces péchés-là, de façon à ce que Dieu recouvre l'ensemble de la faute de tous les hommes. Donc ils sont là, en quelque sorte, en vicariance, enfin délégués pour tous. Et Dieu recouvre, une fois l'an, nous dit le texte, la faute de l'ensemble des hommes. Alors ça, je trouve ça génial. Et je trouve ça d'autant plus génial que, lorsqu'on travaille le sacrement, la question du sacrement de réconciliation, en fait, tel que nous le connaissons aujourd'hui, il a été en gros mis en œuvre lors du concile de Latran IV au XIIIe siècle. Et Thomas d'Aquin, quand il essaye de justifier théologiquement le secret de la confession, il dit précisément que dès lors que Dieu recouvre la faute, le ministre du culte ne peut pas la découvrir. C'est bien pour ça qu'il y a un secret intangible du sacrement de réconciliation. Et je trouve que le fait que Thomas dise que Dieu lui-même recouvre la faute est dans la droite ligne d'une théologie qui comprend le pardon comme un recouvrement de la faute.
Et on rejoint ce que vous disiez, donc il ne découvre jamais ma nudité, c'est-à-dire qu'il reste très pudique.
Et justement,
finalement,
Dieu ferme les yeux sur ma faute, ça veut dire, alors évidemment pas de façon inconditionnelle, je crois que la seule condition c'est que je revienne vers lui, que je fasse un début de pas de retournement vers lui. Bon. Mais il recouvre ma faute, ça veut dire que ce qui l'intéresse, c'est ce que je suis pour lui, autrement dit, ce qui en moi n'est pas recouvert par le péché.
Il y a une très belle phrase de Maître Eckhart que vous citez. Dieu est le Dieu du présent. Tel il te trouve, tel il te reçoit, tel il te prend. Non pas tel que tu fus, mais tel que tu es en ce moment.
Exactement. Dieu est le Dieu du présent.
Donc, il ferme les yeux sur nos fautes passées. C'est du passé.
Les fautes passées que j'ai regrettées et que j'ai confessées devant Dieu ne sont plus. Le pardon est donné. Vraiment. Et peut-être que nous avons du mal, c'est que nous avons du mal à y croire, en fait. Alors, vous allez me dire, évidemment, il y a des gestes très graves qui ont des conséquences qui peuvent pas être effacées. Quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, le pardon ne va pas ressusciter celui qui est mort. Évidemment que non. Mais il faudrait relire ce que dit François dans la bulle d'indiction sur l'indulgence, qui est une notion assez complexe, mais où il dit l'indulgence, c'est que le pardon de Dieu va jusqu'à remettre de la vie là où la mort était passée, en fait. Alors ça, peut-être, on aurait à le méditer.
Mais vous qui côtoyez des personnes qui ont parfois lourd sur la conscience parce que ce sont des prisonniers, il y a aussi la question de la culpabilité, parce que elle est très forte, cette question-là.
Évidemment que oui. Alors, moi, ma position est très particulière. C'est-à-dire, je suis comme médecin généraliste, et donc ma décision délibérée est de ne jamais demander aux gens pourquoi ils sont là. Et cette décision, elle s'enracine dans ce dont nous parlons. C'est-à-dire, pour moi, si je suis chrétienne, médecin dans un endroit comme la prison, recouvrir la faute, ça veut dire ne pas ouvrir les yeux sur ce qui ne me regarde pas. Et donc, donner la possibilité à des personnes qui viennent me voir en consultation d'être dans un autre registre que dans un registre de qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous êtes là, etc. Parce qu'il me semble qu'il y a de l'innocence en tout homme, et que notre innocence, enfin, notre identité la plus profonde qui est notre innocence, elle peut être recouverte par la faute, mais elle n'est jamais entamée, abîmée, cassée, déchirée par la faute.
Oui, mais vous avez des gens qui ont été pardonnés et qui demeurent coupables et qui sont chargés du poids de cette culpabilité. Très difficile quand même.
Ah, mais c'est très difficile, mais évidemment que c'est très difficile, mais je pense que pour les aider, encore une fois, à vivre avec cette culpabilité, moi, la seule chose que je puisse faire, c'est de ne pas porter un regard qui les accuse. C'est tout ce que je peux faire. Et c'est de voir en eux l'innocence. C'est tout ce que je peux faire. Je peux rien faire de plus. Après, il faut aussi laisser le temps faire son œuvre. Et c'est un peu facile de faire ce que je fais avec vous, de parler du pardon de Dieu comme ça, tranquillement installé. Il y a la dimension du temps qui est complètement essentielle. Hein. Et le temps nous aide à traverser, à retrouver ce qui en nous est notre identité, encore une fois, que Dieu aime. Enfin, il faut parfois une vie pour vivre avec une faute. Bien sûr que c'est vrai.
Nous continuerons demain. Anne Lécu, merci.